Où trouvez-vous vos idées et d'où vous est venue cette idée sont deux questions différentes. Il est impossible de répondre à la première. Alors j'ai pour habitude de plaisanter en disant que je les trouve dans une petite boutique d'idées d'occasion à Utica. Il est parfois possible de répondre à la seconde, mais dans un nombre surprenant de cas, on ne peut pas, parce que les histoires sont comme des rêves. Tout est délicieusement limpide pendant l'écriture, mais à l'arrivée, quand l'histoire est terminée, ne subsistent que quelques traces évanescentes. Il m'arrive de penser qu'en réalité, un recueil de nouvelles est une sorte de journal de bord des rêves, une façon de capturer des images du subconscient avant qu'elles ne s'évaporent. En voici un parfait exemple. Je ne me rappelle pas comment m'est venue l'idée de « À la dure », ni combien de temps il m'a fallu pour l'écrire, ni même où je l'ai écrite. Mais ce dont je me souviens, c'est que c'est une de ces très rares histoires dont je voyais la fin clairement, ce qui signifiait que le récit devait être habilement construit pour y conduire. Je sais que certains écrivains préfèrent travailler avec la fin en vue. Une fois, John Irving m'a dit qu'il commence toujours par écrire la dernière ligne d'un roman, mais ce n'est pas tellement mon truc. En règle générale, j'aime que la fin se présente elle-même. J'ai le sentiment que si j'ignore comment vont se terminer les choses, le lecteur l'ignorera aussi. Heureusement pour moi, dans certains récits, dont celui qui va suivre, ce n'est pas grave, et c'est même plutôt bien si le lecteur a une longueur d'avance sur le narrateur. À la dure. Ça fait une semaine que je fais le même rêve, mais ce doit être un de ces rêves lucides, car j'arrive toujours à me réveiller avant qu'il ne se transforme en cauchemar. Sauf que cette fois, on dirait qu'il m'a suivi au réveil, car Ellen et moi ne sommes pas seuls dans la chambre. Il y a quelque chose sous le lit. Je l'entends mâcher. Vous savez comment c'est quand on a vraiment peur? Bien sûr que vous savez. Je veux dire, c'est assez universel. Le cœur cesse de battre, la bouche s'assèche, la peau devient froide, et tout le corps se couvre de chair de poule. Au lieu de s'engrainer, les rouages du cerveau tournent à vide et tout le moteur chauffe. Je me retiens à grand-peine de hurler. Je me dis, c'est la chose que je ne veux pas regarder, la chose assise côté hublot. Puis je vois clairement le ventilateur au plafond, pâle tournant au ralenti. Je vois le ray de lumière matinale dans la fente entre les rideaux tirés. Je vois la touffe de laiterons d'argent des cheveux d'Ellen de l'autre côté du lit. Je suis là, Upper East Side, 5e étage. Tout va bien. Ce n'était qu'un rêve. Quant à ce qu'il y a sous le lit, je repousse les couvertures et m'extrais à genoux, comme si j'avais l'intention de prier. Au lieu de quoi, je soulève le cache-sommier et glisse un œil sous le lit. D'abord, je ne vois qu'une silhouette sombre, puis la tête de la silhouette se tourne vers moi et deux yeux brillants me regardent. C'est Lady. Elle n'est pas censée être là, je pense qu'elle le sait. Difficile de dire ce qu'un chien sait et ne sait pas, mais j'ai dû laisser la porte ouverte quand je suis venu me coucher, ou je l'ai mal fermée, et Lady l'a poussée de la truffe. Elle a dû prendre au passage l'un de ses jouets dans le panier du couloir. Pas l'os bleu ni le rat rouge, heureusement. Ces deux-là ont une petite valve qui couine, et ils auraient réveillé Ellen à coup sûr. Or Ellen a besoin de repos. Elle est mal foutue ces temps-ci. « Lady, je chuchote. Lady, sors de là !» Elle me regarde et c'est tout. Elle commence à se faire vieille et n'est plus aussi solide sur ses pattes, mais elle n'est pas stupide. Elle s'est couchée du côté d'Ellen, là où je ne peux l'atteindre. Si j'élève la voix, il faudra bien qu'elle vienne, mais elle sait, je suis quasiment sûr qu'elle sait, que je ne le ferai pas, car si j'élève la voix, Ellen se réveillera. Comme pour me le prouver, Lady se détourne de moi et recommence à mâchouiller son jouet. Bon, je vais pas me laisser impressionner. Ça fait 13 ans, presque la moitié de ma vie de couple, que je vis avec Lady. Et il y a trois choses qui la font rappliquer. Le cliquetis de sa laisse accompagné d'un haut et fort « Ascenseur !» Le bruit de sa gamelle qu'on pose par terre et... Je me redresse et longe le petit couloir jusqu'à la cuisine. Je sors le paquet de snack and slices du placard en prenant bien soin de le secouer. Et l'instant d'après, j'entends le bruit étouffé des griffes du cocker sur le parquet. 5 secondes plus tard, la voilà. Elle ne s'est même pas fatiguée à rapporter son jouet. Je lui montre un des biscuits en forme de carotte, puis le jette dans le salon. Pas très gentil peut-être, mais un peu d'exercice ne fera pas de mal à sa grosse carcasse. Elle court après sa friandise. Je prends le temps de démarrer la cafetière, puis je retourne dans la chambre. Je fais attention à bien refermer la porte derrière moi. Ellen est toujours endormie. L'avantage de me réveiller avant elle, c'est que je n'ai pas besoin du réveil, je l'éteins. Je vais la laisser dormir encore un peu. Infection des bronches, elle m'a fait très peur au début. Mais maintenant elle va mieux. Je vais à la salle de bain et inaugure officiellement cette nouvelle journée par un brossage de dents. J'ai lu quelque part que le matin, la bouche est un cimetière de bactéries, mais les vieilles habitudes qu'on nous inculque quand on est gosse sont difficiles à perdre. J'allume la douche, bien chaude et bien forte, et me plante dessous. C'est là que je réfléchis le mieux. Et ce matin, je réfléchis à mon rêve. 5 nuits d'affilée, mais peu importe le nombre, que je fais le même. Rien de véritablement horrible n'arrive, mais en un sens, c'est ça le pire. Parce que dans mon rêve, je sais pertinemment que quelque chose d'horrible va arriver. Si je le laisse arriver. Je suis en avion, classe affaire. Assis côté couloir, ce que je préfère, car si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je n'ai pas à me coller contre les autres passagers pour m'extirper de mon siège. Ma tablette est baissée. Posée dessus, il y a un petit sachet de cacahuètes et une boisson à l'orange qui ressemble à une vodka Sunrise, un cocktail que je n'ai jamais commandé dans la vraie vie. Le vol est calme. S'il y a des nuages, on doit être au-dessus. La cabine de l'appareil est baignée de soleil. Quelqu'un est assis côté hublot, et je sais que si je regarde, l'homme, la femme ou peut-être juste ceux qui se trouvent à côté de moi, je verrai quelque chose qui changera mon mauvais rêve en cauchemar. Si je regarde le visage de mon voisin, je risque de perdre la raison. Elle pourrait se briser comme un œuf et répandre une marée de noirceur sanguinolente. Je rince rapidement mes cheveux savonneux, sors de la douche, me sèche. Mes habits sont pliés sur une chaise dans la chambre. Je les emporte, ainsi que mes chaussures, dans la cuisine qui s'est remplie de la bonne odeur du café. Parfait. Couché près de la cuisinière, Lady me couvre d'un œil plein de reproches. « Me regarde pas comme ça, » je lui dis, puis je désigne la chambre d'un mouvement de tête. « Tu connais les règles. » Elle pose son museau entre ses pattes et fait semblant de dormir, mais je sais qu'elle me regarde encore. Je me sers un jus de canneberge en attendant le café. Il y a aussi du jus d'orange, ma boisson habituelle. Mais ce matin, je n'en veux pas. J'imagine que ça me rappelle trop mon rêve. Je vais prendre mon café au salon devant CNN dont j'ai coupé le son. Je me contente des informations qui défilent au bas de l'écran. Tout ce dont on a réellement besoin, selon moi. Puis, j'éteins la télé et me sers un bol de Auburn. 8h15. Je décide que s'il fait beau quand je sortirai promener Lady, je me passerai du taxi et j'irai au bureau à pied. Il fait plutôt beau. Le printemps se rapproche doucement de l'été et tout resplendit. Carlo, le portier, est sous l'auvent. Il est au téléphone. « Ouais, dit-il, ouais, j'ai enfin réussi à la voir. Elle est d'accord, pas de problème tant que je suis là. Elle fait confiance à personne d'autre et je me garderai bien de la juger. Elle a pas mal de belles choses là-haut. Vous venez à quelle heure? 3 heures? Vous pouvez pas plus tôt ?» Il me fait un signe de sa main gantée de blanc alors que j'emmène Lady faire sa balade au coin de la rue. On est devenus des pros, Lady et moi. Elle fait sa commission à peu près tous les jours au même endroit et je manie le sac à crotte avec dextérité. Quand je reviens, Carlo se baisse pour la flatter. Elle remue la queue d'une façon tout à fait adorable, mais pas de friandise de la part de Carlo. Il sait qu'elle est au régime, censée être au régime. « J'ai enfin réussi à joindre Madame Wachowski, » me dit-il. « Madame Wachowski habite au 5C, enfin théoriquement du moins. Ça fait déjà quelques mois qu'elle s'est absentée. » Elle était à Vienne. Tiens donc, Vienne, je dis. Elle est d'accord pour que je fasse venir les dératiseurs. Elle était horrifiée quand je lui ai dit. Vous êtes le seul locataire des 4e, 5e et 6e à ne pas s'être encore plaint. Les autres, il secoue la main et lâche un pfiou. J'ai grandi dans une ville industrielle du Connecticut, je lui dis. Ça m'a complètement bousillé les sinus. J'arrive à sentir l'odeur du café et le parfum d'Ellen, si elle en abuse, mais c'est à peu près tout. Dans le cas présent, c'est sûrement une chance. Comment va, Madame Franklin? Toujours mal fichue? Elle en a encore pour quelques jours avant de retourner travailler, mais elle va sacrément mieux. J'ai eu vraiment peur pendant un moment. Moi aussi. Je l'ai vue sortir l'autre jour, sous la pluie, bien entendu. Ellen, tout croché, je renchéris. Rien ne l'arrête. Si elle doit aller quelque part, elle y va. Et je me suis dit, ça c'est une toux de tuberculeux. Il se défend d'un geste de sa main gantée, paume en avant. Non pas que je pensais vraiment... Il n'y a pas de mal, je dis. On a frôlé l'hôpital, c'est vrai. Mais j'ai finalement réussi à la traîner chez le médecin, et maintenant, tout va mieux. Bien, bien. Puis, revenant à ce qui le préoccupe réellement, Madame Wachowski était plutôt choquée. Je lui ai dit qu'on trouverait sûrement de la nourriture avariée dans son frigo, mais je sais que c'est pire que ça. Comme le savent tous ceux qui ont un odorat intact entre le quatrième et le sixième. Il hoche la tête avec un petit air sinistre sur le visage. Ils vont trouver un rat crevé là-haut, je vous le dis. La nourriture avariée pue, mais pas comme ça. Il n'y a qu'une charogne qui peut en pester comme ça. C'est un rat, c'est sûr, peut-être même plusieurs. Elle a dû mettre du poison et elle ne veut pas l'avouer. Il se penche encore pour flatter Lady. Toi, tu le sens, hein, la belle? Un peu que tu le sens. Tout autour de la cafetière, la paillasse est jonchée de post-it violets. J'apporte le bloc d'où ils proviennent sur la table de la cuisine et rédige un nouveau message. Helen, Lady a fait sa promenade. Le café est prêt. Si tu te sens assez en forme pour aller faire un tour au parc, vas-y, mais pas trop loin. Je ne veux pas que tu te surmènes maintenant que tu es sur la voie de la guérison. Carlo m'a encore dit que ça sent le rat crevé. Tous les voisins du 5C doivent le sentir aussi. Heureusement que t'as le nez pris et que moi, je suis handicapé du pif. Si t'entends du bruit dans le couloir, ne t'inquiète pas, c'est les dératiseurs. Carlo sera avec eux. Je vais au boulot à pied. Besoin de réfléchir encore à leur dernière pilule miracle pour la virilité. J'aurais aimé qu'il nous consulte avant de lui coller ce nom. Bon, surtout, n'en fais pas trop. Bisous, bisous. J'aligne tout plein de croix pour bien lui signifier mon amour et je signe d'un B dans un cœur. Puis je rajoute le mot aux autres autour de la cafetière. Je remplis la gamelle d'eau de Lady avant de partir. Le bureau est à une vingtaine de pâtés de maison et je ne pense pas à la dernière pilule miracle en marchant. Je pense aux dératiseurs qui seront là à 3 heures, plus tôt s'ils le peuvent. Les mauvais rêves ont dû perturber mon cycle de sommeil, car ce matin, pendant la réunion en salle de conférence, je pique presque du nez. Je me ressaisis en vitesse quand Pete Wendell sort sa maquette pour la nouvelle campagne de Petrov Excellent. Je l'ai déjà aperçu la semaine dernière quand il bataillait dessus sur son ordinateur. Et en la revoyant, je comprends d'où provient au moins un élément de mon rêve. « Vodka Petrov Excellent », annonce Aura McLean. Sa magnifique poitrine se soulève et s'abaisse dans un soupir théâtral. Si ce nom se veut un exemple du nouveau capitalisme russe, c'est mort d'avance. Les éclats de rire les plus chaleureux viennent des types les plus jeunes, qui aimeraient bien voir les longs cheveux blonds d'Aura s'étaler sur l'oreiller à côté d'eux. « Ne le prends pas mal, Pete, mais à part Petrov Excellent, c'est une super accroche. « Il n'y a pas de mal », dit Pete, avec un sourire gaillard. « On fait ce qu'on peut. » Sur l'affiche, on voit un couple trinquer sur un balcon pendant que derrière eux, le soleil se couche sur un port de plaisance empli de bateaux luxueux. En dessous, la légende dit « Le coucher du soleil, l'heure parfaite pour une tequila sunrise ». On discute un moment de la position de la bouteille de Petrov, droite, gauche, centre, bas, puis Frank Bernstein fait remarquer que d'ajouter la recette du cocktail pourrait prolonger l'attention des consommateurs, surtout sur Internet et dans des magazines comme Playboy ou Esquire. Je déconnecte, mes pensées de retour à la boisson posée sur la tablette dans mon rêve de l'avion, jusqu'à ce que je réalise que George Slattery me parle. J'arrive à me repasser la question, c'est déjà ça, on ne demande pas à George de se répéter. À vrai dire, je suis dans la même galère que Pete, je dis. C'est le client qui a choisi le nom, je fais ce que je peux avec. De bons rires francs retentissent. On a déjà fait un paquet de blagues sur le nouveau produit des laboratoires Vonel. J'aurai peut-être quelque chose à vous montrer lundi, je leur dis. Je ne regarde pas Georges, mais il sait où je veux en venir. Milieu de semaine prochaine, au plus tard. J'ai envie de donner sa chance à Billy, qu'il se teste. Billy Ederly est notre toute nouvelle recrue. Il fait sa période d'essai avec moi en tant qu'assistant. Il n'est pas encore invité aux réunions du matin, mais je l'aime bien. Tout le monde l'aime bien chez Andrew Slattery. Il est intelligent, motivé, et je parie que dans un an ou deux, il commencera à se raser. George examine la question. J'espérais vraiment voir quelque chose aujourd'hui, ne serait-ce qu'une ébauche. Silence. Tout le monde se regarde les ongles. On n'est pas loin de la remontrance publique, et peut-être que je le mérite. Ça n'a pas été ma meilleure semaine, et me décharger sur le gamin ne fait pas très bonne impression. Ça ne me cause pas non plus une sensation très agréable. « Ok, » finit par lâcher George. Et le soulagement dans la pièce est palpable. C'est comme un léger souffle d'air frais qui passe et disparaît. Personne n'a envie d'assister à une correction en pleine salle de conférence par un vendredi matin ensoleillé. et je n'ai aucune envie d'en recevoir une. J'ai trop de trucs dans la tête en ce moment. Je me dis, George flaire quelque chose. Comment va Alan ? Me demande-t-il. Mieux, je lui dis. Merci. Quelques autres présentations se succèdent, puis c'est terminé. Dieu soit loué. Je somnole presque lorsque Billy Adderley entre dans mon bureau 20 minutes plus tard. Tu parles. Je somnole carrément. Je me redresse bien vite, espérant que le gamin pensera juste m'avoir surpris en pleine réflexion. De toute manière, il est probablement trop excité pour avoir remarqué quoi que ce soit. Il tient une affiche cartonnée à la main. Je vois tout à fait Billy au lycée de Pouzoul, apposant la grande affiche pour la soirée dansante du vendredi. « La réunion s'est bien passée ?» me demande-t-il.
« Ça a été. »«
Ils ont parlé de nous ?»«
Tu penses bien que oui. T'as quelque chose pour moi, Billy ?»
Il prend une forte inspiration, puis tourne son carton pour que je le voie. Sur le côté gauche, un flacon de Viagra grandeur nature, ou assez proche pour que ça ne tire pas à conséquence. Sur le côté droit, le côté fort d'une pub, comme tout le monde en ce milieu vous le dira, un flacon de notre truc à nous, mais bien plus gros. Et en dessous, une légende qui dit « Puissance, 100 fois plus puissant que le Viagra ». Tandis que Billy me regarde regarder, son sourire plein d'espoir commence à se décomposer. « Vous aimez pas ?» Il n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. Dans ce boulot, c'est jamais la question. Ce qui compte, c'est de savoir si ça marche ou pas. Ça marche pas. Maintenant, il a carrément l'air de bouder. Si George Slattery voyait cet air-là, il ferait un caca nerveux. Moi pas, même s'il doit se dire que oui, vu que mon boulot c'est de lui enseigner le métier. Et c'est ce que je vais essayer de faire en dépit de tout ce que j'ai dans la tête en ce moment. Parce que j'adore ce métier. Très vilipendé, mais je l'adore quand même. Et puis, j'entends Ellen me dire « T'es pas du genre à lâcher prise. Une fois que t'as mordu dans un truc, tes dents restent bien plantées. Autant de détermination, ça peut faire peur. » « Assieds-toi, Billy. » Il s'assoit. « Et fais pas cette tête, ok? T'as l'air d'un môme qui a fait tomber sa totoche dans les cabinets. » Il fait de son mieux. C'est ce que j'aime chez lui. Ce gamin est un battant et s'il compte rester chez Andrew Slattery, il a plutôt intérêt à l'être. La bonne nouvelle, c'est que je te laisse la pub. Ah oui, c'est pas de ta faute si Vanel nous a fourgué un nom de machin multivitaminé. Mais ensemble, on va transformer la citrouille en carrosse, ok? C'est ça le boulot d'un publicitaire, au moins 7 fois sur 10. Peut-être 8. Alors écoute-moi bien. Il se déride un peu. Je dois prendre des notes? Pas de lèche avec moi. Premièrement, quand tu vends un produit, ne montre jamais le flacon. Le logo, oui. Le comprimé, des fois. Ça dépend. Est-ce que tu sais pourquoi Pfizer montre son comprimé de Viagra? Parce qu'il est bleu. Les consommateurs aiment le bleu. Sa forme aussi est un atout. Les consommateurs ont une réaction très positive à la forme des pilules de Viagra. Mais ils ne veulent jamais voir le flacon entier. Flacon de médoc égale maladie. Pigé? Alors peut-être une petite pilule de Viagra face à une grosse pilule de puissance plutôt que les flacons? Des deux mains écartées, il encadre une légende imaginaire. Puissance, 100 fois plus concentrée, 100% d'efficacité. Vous voyez?
Oui, Billy, je vois.
La FDA verra très bien aussi, et elle n'appréciera pas. En fait, elle pourrait même nous obliger à retirer des affiches avec ce genre de légende, ce qui nous coûterait un paquet. Sans parler du très gros client que l'on perdrait.
Pourquoi ?
Je croirais entendre bêlement. Parce que c'est pas 100 fois plus concentré, et que ça n'a pas 100% d'efficacité. Viagra, Cialis, Levitra, Puissance, tous ont à peu près les mêmes capacités en matière d'élévation du pénis. Fais tes propres recherches, gamin, et une petite remise à niveau en droit de la publicité ne te ferait pas de mal non plus. Si tu veux dire que les muffins Free Freeze Brand sont 100 fois meilleurs que les muffins Mimi's Brand, vas-y, le goût, c'est subjectif. Quant à ce qui te fait bander et pour combien de temps, ok, dit-il, d'une petite voix. Pour le reste, 100 fois plus comme accroche, c'est plutôt mollasson, pour rester dans le registre viril. C'est passé de mode à peu près en même temps que les deux bécasses dans la cuisine. Il a l'air perdu. Les deux bécasses dans la cuisine. C'est comme ça que les publicitaires appelaient les pubs pour liquide vaisselle dans les années 50. Vous rigolez?
J'ai bien peur que non. Voilà un truc auquel j'ai pensé.
J'écris quelque chose sur le bloc-notes, et l'espace d'un instant, je revois tous ces mots éparpillés autour de la cafetière au bon vieux 5B,
Pourquoi sont-ils toujours là ? Vous pouvez pas tout simplement me le dire ? Me demande le gamin depuis très très loin. Non, parce que la pub n'est pas un support oral. Ne fais jamais confiance à une pub parlée. Écris-la et montre-la à quelqu'un. Montre-la à ton meilleur ami ou à ta, tu sais, ta femme.
Brad, ça va ?
Oui, pourquoi ?
Je sais pas, vous avez eu l'air bizarre un instant.
Tant que j'ai pas l'air bizarre pendant la présentation de lundi. Maintenant, dis-moi ce que tu penses de ça.
Je tourne le bloc-notes vers lui et lui montre ce que j'ai écrit.
Puissance, pour se la faire à la dure.
C'est une blague cochonne, objecte-t-il.
T'as raison.
Mais j'ai écrit en capital. Imagine la même chose en script délicat, légèrement penché. Peut-être même en minuscule, entre parenthèses, comme un secret.
Je les rajoute, bien que ça n'aille pas avec les capitales. Mais ça fonctionnera quand même. Je le sais car je peux le visualiser.
Maintenant, à partir de là, imagine la photo d'un grand type baraqué, en jean, taille basse, qui laisse voir le haut de son caleçon.
Disons, avec un t-shirt aux manches découpées.
Imagine du cambouis et de la crasse sur ses tablettes.
Tablettes ?
Son ventre, quoi. Il se tient à côté d'une grosse bagnole avec le capot ouvert.
Tu trouves toujours que c'est une blague cochonne ?
Je sais pas.
Moi non plus, pas vraiment. Mais mon instinct me dit que ça va le faire.
Mais pas tel que.
La légende ne marche toujours pas. Tu as raison sur ce point. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Car ce sera la base de tous les spots télé et Internet. Alors joue avec. Trouve quelque chose. Et souviens-toi du mot-clé.
Et tout à coup, ça fait tilt. Je sais d'où vient le reste de ce satané rêve.
Brad ? Le mot-clé, c'est dur, je lui dis. Parce qu'un homme, quand quelque chose va de travers, sa queue, ses plans, sa vie, il joue les durs, il ne renonce pas, il se souvient de sa vie d'avant et tout ce qu'il veut, c'est la récupérer.
Oui, je me dis, oui, il veut la récupérer.
Billy a un sourire en coin.
Ah, je savais pas.
J'arrive à sourire aussi.
C'est atroce ce que ça pèse, comme si j'avais le coin des lèvres lesté.
Tout à coup, c'est comme si j'étais de retour dans mon rêve. Parce qu'il y a quelque chose à côté de moi que je ne veux pas regarder. Sauf que là, je ne suis pas dans un rêve lucide dont je peux m'échapper. Là, je suis lucide et c'est la réalité.
Billy parti, je descends en toilette. Il est 10 heures et la plupart des gars de la boîte ont déjà vidangé leur café du matin et sont en train de s'en resservir un dans notre petite salle de pause. J'ai donc les toilettes pour moi tout seul.
Je baisse mon froc, comme ça, si quelqu'un entre et s'avise de regarder sous la porte, il ne me prendra pas pour un taré. Mais la seule raison pour laquelle je suis venu ici, c'est pour réfléchir, ou plutôt, me souvenir. 4 ans après mon entrée chez Andrew Slattery, le contrat pour l'antalgique Fastburn a atterri sur mon bureau. J'ai eu quelques éclairs de génie au cours des années, de vraies trouvailles, et la première ce fut pour ce contrat. Tout s'est passé très vite. J'ai ouvert l'échantillon, sorti le flacon, et là, le cœur de la campagne, ce que les publicitaires appellent parfois le Duramen, m'est venu d'un coup. J'ai un peu joué au con, bien sûr, que ça ne paraisse pas trop facile, mais je me suis lancé dans la confection des maquettes.
Ellen m'a aidé. C'était juste après que l'on eut appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Quelque chose à voir avec un médicament qu'on lui a administré pour une crise de rhumatisme articulaire aigu quand elle était petite. Elle était salement déprimée.
De m'aider sur le projet Fastburn lui a changé les idées, et elle s'est vraiment donnée à fond.
Al Peterson était encore à la tête de la boîte à l'époque. C'est donc à lui que je suis allé montrer nos maquettes. Je me rappelle m'être assis dans le fauteuil de torture face à son bureau, le cœur battant la chamade, tandis qu'il feuilletait lentement les maquettes qu'Allen et moi avions pondues. Quand il les a enfin reposées, et qu'il a levé sa vieille tête hirsute pour me regarder, il m'a paru tenir la pose pendant au moins 1 heure. Puis il m'a dit
« C'est super bon, Bradley.
Plus que bon.
Formidable.
Rendez-vous avec le client demain après-midi. C'est toi qui fais la présentation. » Je l'ai faite. Et quand le vice-président de Dug & Drug a vu la photo de la jeune ouvrière avec le tube de Fastburn coincé dans la manche retroussée de son chemisier, il a tout de suite adhéré. Notre campagne a propulsé Fastburn avec les géants, Bayer, Anison, Bufferin. Et à la fin de l'année, on était chargé de la totalité des contrats Duggan. Facturation, 7 chiffres. Et pas petit.
Grâce à la prime que j'ai touchée, Ellen et moi nous sommes payés 10 jours à Nassau. On est parti de l'aéroport Kennedy un matin où il pleuvait des cordes, et je me rappelle encore comment elle a ri en me criant « Embrasse-moi, mon beau !» quand l'avion a transpercé les nuages et que la cabine s'est emplie de soleil. Quand je l'ai embrassée, le couple de l'autre côté de l'allée, nous voyagions en classe affaires, a applaudi. Ça, c'était la meilleure partie du voyage. Le pire est arrivé une demi-heure plus tard, quand je me suis tourné vers elle et que l'espace d'un instant, j'ai bien cru qu'elle était morte. C'était la façon dont elle dormait, la tête penchée sur une épaule, la bouche ouverte et les cheveux comme collés au hublot. Elle était jeune, nous l'étions tous les deux. Mais dans le cas d'Ellen, l'éventualité d'une mort subite avait un caractère d'effrayante possibilité. Madame Franklin, a commencé le médecin lorsqu'il nous a annoncé la terrible nouvelle, nous parlons bien de stérilité, mais dans votre cas, votre incapacité à tomber enceinte pourrait être une bénédiction. La grossesse exerce une forte pression sur le cœur, et du fait d'une maladie qui fut très mal soignée dans votre enfance, le vôtre n'est plus aussi résistant. S'il arrivait que vous tombiez enceinte, vous devriez passer les 4 derniers mois de votre grossesse alitée, et quand bien même, l'issue ne serait pas garantie. Bien sûr, Ellen n'était pas enceinte quand nous avons embarqué pour ce voyage, et ses derniers examens médicaux s'étaient bien passés. Mais la montée de l'avion en altitude avait été mouvementée, et elle ne paraissait pas respirer. Puis, elle a ouvert les yeux. Je me suis laissé aller au fond de mon siège côté couloir avec une longue expiration tremblante. Ellen m'a regardé, perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. La façon dont tu dormais, c'est tout. » Elle s'est essuyé le menton. « Oh mon Dieu, je bavais ?»« Non, j'ai ri. Mais pendant une minute, là, j'ai cru que tu étais morte. » Elle aussi a ri. « Et si ça m'arrivait, j'imagine que tu réexpédierais mon corps à New York et que tu t'accoquinerais avec une nana des Bahamas ?»« Non, j'ai dit. Je te garderais avec moi dans tous les cas. »«
Quoi ?»«
Parce que je l'accepterais pas. Non, il n'y aurait pas moyen que j'accepte. Après quelques jours, tu n'aurais plus vraiment le choix. Je commencerais à sentir vraiment mauvais. » Elle souriait. Elle continuait à le prendre comme un jeu, car elle n'avait pas véritablement pris au sérieux ce que le médecin lui avait dit ce jour-là. Elle ne l'avait pas pris à cœur, pour ainsi dire. Et elle ne s'était pas vue à l'instant, comme moi je l'avais vue, avec le soleil brillant sur ses joues d'hiver pâle, ses paupières bleuâtres et sa bouche béante. Mais moi, j'avais vu. Et ça m'était allé droit au cœur. Ellen était mon cœur, et tout ce qu'il y a dans mon cœur, je le protège. Personne ne me l'enlève. Non, je lui ai dit, je te garderai en vie. Ah, vraiment? Et comment? Nécromancie? En refusant de renoncer et en usant de l'atout le plus précieux d'un publicitaire. C'est-à-dire, monsieur Fassbrain, l'imagination. On peut parler de quelque chose de plus gai à présent? Le coup de téléphone que j'attendais arrive vers 15h30. Ce n'est pas Carlo, c'est Burke Ostro, le concierge. Il veut savoir à quelle heure je serai de retour chez moi, car le rat crevé que tout le monde a dans le nez n'est pas au 5C, mais à côté, chez nous. Ostro me dit que les dératiseurs doivent filer à 16h pour un autre rendez-vous, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de découvrir ce qui cloche dans l'appartement, et au fait, Carlo dit que personne n'a vu votre femme depuis au moins une semaine, juste vous et le chien. Je lui explique mon odorat déficient et la bronchite d'Ellen. Dans son état, elle ne réaliserait sûrement pas que les draps sont en feu avant que le détecteur de fumée ne se déclenche. Je suis sûr que Lady le sent, je lui dis. Mais pour un chien, l'odeur d'un rat crevé doit ressembler à du Chanel numéro 5. Je comprends bien tout ça, monsieur Franklin. Mais j'ai quand même besoin d'entrer pour voir de quoi il retourne. Et il faudra rappeler les dératiseurs. J'ai bien peur que la facture ne vous revienne, et il se peut qu'elle soit assez salée. Je pourrais entrer avec mon passe, mais je préférerais vraiment que vous soyez là. Oui, moi aussi je préférerais, sans parler de ma femme. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas décroché. J'entends de la suspicion dans sa voix maintenant. J'ai tout expliqué, ça, les publicitaires savent très bien le faire. Mais l'effet de persuasion ne dure pas plus de 60 secondes. C'est pour ça qu'on entend sans cesse les mêmes pubs et slogans martelés indéfiniment. « Pure cream, un tout petit peu suffira. Gagnez du temps, gagnez de l'argent. Ici c'est Pepsi, venez comme vous êtes. Le petit déjeuner des champions. » C'est comme enfoncer un clou, l'enfoncer jusqu'au duramen. Elle a probablement mis le téléphone en silencieux, et puis les médicaments que le docteur lui a prescrits la font dormir. « À quelle heure pensez-vous être de retour, monsieur Franklin ?
Je peux rester jusqu'à 19h, mais après ça, il n'y aura plus que Carlo. »
Le ton désobligeant de sa voix suggère que même un cinglé de clochard me serait plus utile.
« Jamais, je pense. Je ne rentrerai jamais. En fait, je n'ai jamais été là. Ellen et moi avons tellement aimé les Bahamas que nous nous sommes installés à Cable Beach. J'ai trouvé un boulot dans une petite agence à Nassau. Je fais la promotion de vente spéciale de bateaux de croisière. La traversée est une destination. De soldes records de Chanifi. N'écoutez pas seulement mieux, écoutez moins cher. Et d'ouverture de supermarchés. Économisez sous les palmiers.
Toute cette histoire de New York n'est rien d'autre qu'un rêve lucide dont je peux m'échapper à tout moment.
Monsieur Franklin, vous êtes là?
Oui, oui, je réfléchis. J'ai encore une réunion que je ne peux absolument pas manquer,
mais pourquoi ne me retrouvez-vous pas chez moi vers 18h?
Pourquoi pas plutôt dans le hall d'entrée, monsieur Franklin? On pourra monter ensemble.
Autrement dit, pas question que je te laisse prendre de l'avance, Mister le génie de la pub qui a peut-être assassiné sa femme.
J'ai envie de lui demander comment il s'imagine que je m'y prendrais pour arriver à l'appartement avant lui et faire disparaître le cadavre d'Ellen, parce que c'est ça qu'il pense. Peut-être pas totalement consciemment, mais pas non plus dans les tréfonds de son subconscient.
Un mari assassine sa femme est le grand thème de prédilection sur la chaîne de télé Lifetime.
Il pense peut-être que je vais utiliser l'ascenseur de service et remiser son corps dans le débarras, ou peut-être le balancer dans l'incinérateur à ordures, crémation maison.
Dans le hall d'entrée alors, sans problème, je lui dis. 18h, moins le quart si j'arrive à me libérer avant.
Je raccroche, puis me dirige vers les ascenseurs. Je suis obligé de passer par la salle de pause. Billy Adderley se tient dans l'embrasure de la porte, il boit un Ozzy. Un soda absolument immonde, mais c'est tout ce que nous avons. Le fabricant est notre client.
« Vous allez où ?»«
Je rentre. Ellen a appelé, elle ne se sent pas bien. »«
Vous ne prenez pas votre mallette ?»«
Non. Je ne pense pas en avoir besoin pendant un petit bout de temps. En fait, il se peut que je n'en ai plus jamais besoin. »
« Je travaille dans la nouvelle direction pour puissance. Je pense qu'on va faire un carton. »
« J'en suis sûr, je lui dis.
Et je le pense. »
Billy Adderley ne va pas tarder à monter en grade. Et c'est tant mieux pour lui.
« Il faut que je file. »
« Bien sûr, je comprends. »
Il a 24 ans et ne comprend que dalle.
« Transmettez-lui mes souhaits de prompt rétablissement. »
Chez Andrew Slattery, on prend une demi-douzaine de stagiaires par an. C'est comme ça que Billy Adderley a commencé.
La plupart sont sacrément fortiches, et au début, Fred Willett semblait sacrément fortiche lui aussi.
Je l'ai pris sous mon aile, et c'est donc à moi qu'a incombé la responsabilité de le virer. Je pense qu'on peut dire ça même si à la base les stagiaires ne sont jamais vraiment embauchés, quand il s'est avéré qu'il était klepto et qu'il prenait notre réserve pour son terrain de chasse privé. Dieu seul sait la quantité de trucs qu'il a pu piquer avant qu'un jour Maria Ellington ne le surprenne en train de bourrer sa mallette de la taille d'une valise de rame de papier. Il se trouve qu'il était un peu psychopathe sur les bords aussi. Il a pété une ogive nucléaire quand je lui ai dit que c'était terminé pour lui.
Pendant que le gamin me gueulait dessus dans le hall d'entrée, Pete Wendell a dû appeler la sécurité pour le faire évacuer manu militari. Mais apparemment, le petit Freddy n'avait pas dit son dernier mot, car il s'est mis à traîner autour de mon immeuble et à me haranguer à mon retour du travail. Il gardait quand même ses distances et les flics ont décrété qu'il exerçait seulement son droit à la liberté d'expression. Mais ce n'était pas de ces invectives que j'avais peur. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer qu'en plus des cartouches d'encre et de la cinquantaine de rames de papier, il avait très bien pu repartir avec un cutter ou un scalpel. C'est là que j'ai demandé à Carlo de me procurer un double de la porte de service et que je me suis mis à utiliser cette entrée. Tout ça, c'était à l'automne dernier, septembre ou octobre. Puis, quand le froid a commencé à tomber, le môme Willits a lâché l'affaire et s'en est allé épancher ses problèmes ailleurs.
Carlo, quant à lui, ne m'a jamais redemandé la clé, et je ne la lui ai jamais rendue non plus. J'imagine qu'on a oublié tous les deux.
C'est pour ça qu'au lieu de donner mon adresse au taxi, je lui demande de me déposer un pâté de maison plus loin.
Je le paye, rajoutant un généreux pourboire, et c'est rien que de l'argent, puis remonte la ruelle de service. Je commence à paniquer en forçant sur la clé, mais en bidouillant encore un peu, elle tourne enfin.
L'ascenseur de service est matelassé de tissu marron. Un avant-goût de la cellule capitonnée dans laquelle on va me jeter, je me dis. Mais là, je donne carrément dans le mélodrame. Je vais probablement devoir me mettre en congé sans solde de la boîte, et ce que j'ai fait entraîne sans doute automatiquement la résiliation du bail. Mais qu'ai-je fait exactement?
Qu'ai-je fait de toute cette semaine, d'ailleurs ?
Je l'ai gardée en vie, je dis alors que l'ascenseur s'arrête au 5e, parce que je ne pouvais pas supporter qu'elle soit morte.
Elle n'est pas morte, je me dis, juste un peu mal foutue.
Slogan pourri, mais qui a très bien fait l'affaire toute la semaine. Et dans le business de la pub, tout ce qui compte, c'est le court terme.
J'entre. L'atmosphère est calme et tiède, mais je ne sens rien. C'est du moins ce que je me dis. Et dans la pub, l'imagination compte aussi.
« Chérie, je suis rentré, je crie. Tu es réveillée ? Est-ce que tu te sens mieux ?»
J'imagine que j'ai dû laisser la porte de la chambre ouverte ce matin, car Lady s'échappe furtivement de la pièce. Elle se lèche les babines. Elle me lance un regard coupable, puis se dandine vers la salle à manger, la queue très basse. Elle ne se retourne pas.
« Chérie ? Elle ?»
J'entre dans la chambre. On ne voit toujours rien d'elle, si ce n'est la touffe de l'étron d'argent de ses cheveux et la forme de son corps sous les draps. La couverture est légèrement froissée. J'en déduis donc qu'elle s'est levée, ne serait-ce que pour aller boire un peu de café, puis qu'elle est retournée se coucher. Depuis que je suis rentré du travail vendredi dernier et qu'elle ne respire plus, elle dort beaucoup. Je fais le tour de la chambre pour passer de son côté, sa main pend hors du lit. Il n'en reste plus grand-chose à part des os et des lambeaux de chair fendouillants. Je considère attentivement la chose et me dis qu'il y a deux interprétations possibles. D'un premier point de vue, il faudra certainement que je fasse euthanasier mon chien, ou plutôt le chien d'Allen. Lady a toujours préféré Allen. D'un autre point de vue, disons que Lady s'est inquiétée et qu'elle essayait simplement de la réveiller.
« Allez, Ellie, emmène-moi au parc. Allez, viens, Ellie, on va jouer. »
Je glisse ce qui reste de sa main sous les draps. Comme ça, elle n'attrapera pas froid. Puis je chasse quelques mouches. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu de mouches dans notre appartement. Elles ont probablement été attirées par ce rat crevé dont Carlo m'a parlé.
« Tu vois qui est Billy Adderley ?» je fais. « Je lui ai donné une bonne piste pour ce foutu contrat puissance, et je pense qu'il va très bien s'en tirer. »
Rien.
« Tu ne peux pas être morte, je poursuis. C'est inacceptable. »
Rien.
« Tu veux un peu de café ?» je jette un coup d'œil à ma montre. « Manger quelque chose ? On a du bouillon de poulet, en sachet, mais c'est pas mauvais une fois réchauffé. »
« Pas mauvais une fois réchauffé, ça fera un slogan pourri. »«
Qu'est-ce que t'en dis, elle ?»
Elle ne dit rien.
« Ok, je dis. C'est pas grave. Tu te rappelles la fois où on est allé aux Bahamas, mon cœur ? Quand on est allé faire de la plongée et que tu as dû t'arrêter parce que tu pleurais ? Et quand je t'ai demandé pourquoi tu pleurais, tu m'as dit
« Parce que tout est tellement beau ?»
Maintenant, c'est moi qui pleure. « Tu es sûr de ne pas vouloir te lever et marcher un peu ? Je vais ouvrir la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais. »
Rien. Je soupire, caresse sa touffe de cheveux.
D'accord, je dis, dors un petit peu plus alors. Je vais rester là, à côté de toi.
Et c'est exactement ce que je fais. Pour Joe Hill.